Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de la conférence de m'avoir invité. Je viens de loin, je viens de Kigali. Je veux aussi m'excuser aussi pour des problèmes de communication, un peu comme Kabanda. Mais c'est bien connu, plus on est loin, moins Internet va vite, n'est-ce pas? Voilà. Je vais parler donc des réfugiés d'avant 1994, mais en général, on les appelle les réfugiés de 1959. Il s'agit d'un terme impropre, très impropre, parce que une grande partie de ces réfugiés-là, d'avant 1994, n'ont pas fui le pays en 1959. Une partie, oui, mais il y a eu d'autres vagues aussi, un peu après. Mais en général, après 1994, on les a tous amalgamés dans le terme des réfugiés de 1959. Et en fait, pour peut-être aller rapidement, il y a deux grands groupes. Il y a vraiment le groupe qui a quitté le Rwanda en 1959 et les années suivantes. Et ensuite, il y a le second groupe, beaucoup moins important numériquement, mais très important qualitativement et par son influence et sa signification, celui de ce qu'on appelle les 73ards, ceux qui ont quitté le Rwanda après les événements de 1973. Alors, il y a une chose, ce groupe social important qui a contribué à changer le cours de l'histoire du Rwanda récent est presque complètement occulté de l'étude d'histoire contemporaine du Rwanda. Et cela, il y a différentes raisons pour cela. La première, c'est qu'on fait l'amalgame entre les réfugiés d'avant 1994. Mais pour que ce soit plus rapide, je vais peut-être dire les réfugiés de 59, même si vous avez compris que ce n'est pas le même groupe. Entre les réfugiés de 59 et le FPR. Effectivement, le FPR a été formé par les réfugiés de 1959, mais ils ne sont pas totalement interchangeables. Un est une organisation politique et l'autre est un groupe social. Et plutôt qu'un groupe social, je pourrais dire des groupes sociaux. Il y a d'autres raisons aussi qui expliquent un petit peu cette occultation. C'est, dès le début, c'est une espèce de soupçon en féodalité, à savoir que ce groupe-là serait des descendants, ou alors, serait issu des milieux féodaux. C'est notamment la thèse qui a été défendue par le régime Kayibanda, qu'ils a présenté comme des féodaux revanchards. Mais parler des réfugiés de 1959 est très important. Parce que je pense qu'en parlant des réfugiés de 1959, on dépasse un petit peu l'histoire du génocide en tant que tel pour entrer un peu plus dans l'historicité du Rwanda de façon un peu plus large, même si celle-ci ne peut pas être complètement séparée de l'histoire du génocide. Mais c'est une histoire plus large et plus complexe notamment que permet de voir notamment l'action et l'existence des réfugiés de 1959. Il n'y a pratiquement aucune étude monographique sur ces réfugiés-là. La seule que je connaisse, peut-être que mes collègues ici vont m'apprendre autre chose, mais la seule que je connaisse, c'est un rapport commandité par le HCR, le commissariat pour réfugiés, à Guichaoua, paru en 92. Par rapport à certaines choses qui ont été produites par Guichaoua plus tard, ce rapport-là est relativement intéressant. Et donc, pratiquement personne n'en parle, ou alors vraiment par bribes. Ceux qui en parlent, c'est notamment Mamdani en parle, mais avec une vision très centrée sur l'Ouganda, alors que c'est vrai que les réfugiés d'Ouganda ont joué un rôle important, mais pas le seul. Il y a Prunier qui en parle, Gérard Prunier aussi, qui en parle un petit peu, mais aussi un peu à la marge. Mais il n'y a jamais eu vraiment une étude monographique importante sur ce groupe social que l'on distinguerait dans ce cas-là du FPR en tant que tel. Et les quelques mots que je vais vous dire maintenant proviennent d'un livre que je suis en train d'écrire sur la reconstruction et dans lequel je parle un petit peu des réfugiés de 59. Il y a aussi un autre élément, un peu plus subtil peut-être, et cette fois de la part des réfugiés eux-mêmes. Si on parle par exemple du génocide, un certain nombre de rescapés du génocide ont écrit sur le génocide, ou alors même des gens qui étaient proches de ceux qui ont perpétré le génocide ont aussi écrit. Mais par exemple, il y a très peu de réfugiés de 59 eux-mêmes qui ont écrit sur leur propre histoire, et cela a un certain nombre de causes, notamment le fait de vouloir donner d'abord la priorité aux véritables victimes, qui sont les rescapés du génocide. Et là, je peux prendre mon propre cas. Je ne pense pas que j'aurais pu faire une étude ou alors travailler sur les réfugiés 59, même si ce n'est pas une étude. Hein, mon livre ne va pas porter sur les réfugiés 59, c'est juste un extrait dont je vous parle aujourd'hui, sans avoir d'abord, avoir parlé d'abord des rescapés du génocide. Rapidement, les origines, caractéristiques sociales et politiques de ces réfugiés-là. J'ai un peu de mal parce que je ne sais pas très bien quel est le niveau de connaissance des gens et jusque quel est le niveau de détail dans lequel je dois aller. Mais bon, je vais essayer de faire prendre une voie mitoyenne. Donc, je vous ai dit, il y a deux grands groupes. Donc, ceux qui ont quitté le Rwanda entre 59 et, mettons, la fin des années 60. Et enfin, le groupe des réfugiés de 1973. Au niveau du groupe des 59, à proprement parler, une image leur colle à la peau, ou leur a été collée à la peau, à savoir que ce serait un groupe qui serait très lié à l'aristocratie ancienne, notamment. Alors que la réalité est très différente. D'une part, les membres de l'aristocratie ancienne sont très peu nombreux, définition presque, l'aristocratie est toujours très, très limitée. Mais dans le cas des réfugiés de 59, non seulement ils étaient très, très peu nombreux, mais aussi ils ont eu très peu d'action parce qu'ils étaient eux-mêmes déjà hors course pratiquement avant même de quitter le Rwanda parce qu'ils avaient été déjà marginalisés par les évolutions du Rwanda de la fin de la période coloniale et période dans laquelle notamment l'école et la formation occidentale jouaient un rôle de plus en plus important. L'autre groupe important dans ces réfugiés de 59, c'est une grosse partie de la classe moyenne éduquée du Rwanda de la fin de la période coloniale. Et là, je parle des sous-chefs, je parle des assistants médicaux, des différents assistants. Donc, les gens notamment qui sont passés par l'école d'Astrida et qui avaient une certaine formation, qui étaient des professionnels à l'époque. Et une grosse partie d'entre eux, effectivement, ont quitté le pays et se sont retrouvés à l'extérieur. Mais il s'agit encore d'un tout petit groupe. Et enfin, l'essentiel de ceux qui ont quitté le pays étaient des paysans, de simples paysans. Et c'est ça vraiment la plus grande partie, de ce groupe-là. Peut-être il faut que je dise aussi quelques raisons aussi pourquoi est-ce que les gens ont quitté le Rwanda alors que d'autres sont restés au Rwanda. La principale raison était politique. N'étaient pas ethniques. Les gens n'ont pas quitté le Rwanda parce qu'ils étaient Tutsis. Les gens ont quitté le Rwanda parce qu'ils étaient proches des milieux nationalistes et qu'ils s'opposaient au plan de l'administration coloniale et de leurs alliés, les révolutionnaires parmi Hutu en particulier, parce qu'il y avait des révolutionnaires qui étaient différents, les révolutionnaires d'Al-Prosoma, qui avaient une vision tout à fait très différente. Et ceux qui ont quitté d'abord, c'est d'abord les gens qui étaient vraiment influencés par les idées nationalistes et qui luttaient notamment contre l'administration coloniale, d'une part, mais d'autre part aussi les notables de l'époque. Et enfin, il y a un autre élément aussi important qu'il faut prendre en compte, c'est que la révolution, ce qu'on appelle la révolution de 59 ou la jacquerie de 1959, les tueries de 1961, les tueries de 1963, les actes de génocide de 1963 et 64 ont aussi un élément de nettoyage ethnique pour des raisons foncières. Donc on s'est beaucoup débarrassé des gens pour prendre leur terre aussi. Donc ce qui fait qu'il y a un certain nombre de gens qui sont tombés dans la nasse, dont le seul tort était simplement d'avoir un petit lopin de terre. Et ce qui fait que par exemple, que beaucoup de gens qui ont été expulsés du Rwanda étaient par exemple des gens qui venaient de régions qui étaient fortement peuplées. Plutôt que de régions qui étaient moins. Là, je voudrais parler un petit peu de la première installation de ces réfugiés à l'extérieur du pays, notamment dans les camps de réfugiés. La plupart ont été logés dans des camps de réfugiés, dans des régions insalubres, tout à fait sauvages et extrêmement difficiles, dans lesquelles on pouvait très difficilement survivre. Il y a une chose qui est assez frappante, c'est de voir que les conditions sociales dans lesquelles les réfugiés sont arrivés dans ces camps-là se ressemblent beaucoup de camp en camp, de pays en pays, inclus le Rwanda. Pratiquement, de quoi il s'agissait ? On prenait une masse de gens, on les mettait dans un endroit non défriché, pas encore viabilisé, et le HCR leur donnait des provisions pour tenir 3 mois, et ils devaient se débrouiller pratiquement. Et un certain nombre de gens sont rentrés dans des régions avec la mouche tsetse, vivaient au milieu de fauves. Je vous parle de fauves, donc ils venaient attaquer les maisons. L'extrême pauvreté et la maladie. Mais ce qui frappe aussi, c'est de voir que les gens, par exemple, de camps de réfugiés d'Ouganda, différents camps de réfugiés d'Ouganda, camps de réfugiés, peut-être un des seuls grands camps de réfugiés au Congo, qui était celui de Bibgue, et les camps de réfugiés au Burundi, au tout début, partageaient à peu près les mêmes conditions. Mais le plus terrible, ils partageaient aussi les mêmes conditions avec ceux qui avaient été déplacés à l'intérieur du Rwanda, dans le Bugesera. Donc il y a une espèce de similarité d'expérience qui est assez frappante. Dépendant des pays, les conditions de ces réfugiés-là, surtout là je parle des réfugiés comme ça, ruraux, étaient plus ou moins difficiles. Et les conditions de vie des réfugiés d'Ouganda étaient de loin les plus difficiles. Alors que par exemple le Burundi, qui était un petit pays et qui, à cause de la proximité de la langue et de la proximité du même maître colonial, a fait qu'un certain nombre de gens qui travaillaient au Rwanda ont pu se réinstaller au Burundi. Alors qu'au Congo, il y avait la langue et que le Congo était un grand pays où il y avait pas mal d'opportunités et que finalement, assez rapidement, les gens sont retombés sur leurs pattes et ont essayé de se débrouiller, en Ouganda, la chose était beaucoup plus difficile. Et une des caractéristiques de l'expérience des réfugiés d'Ouganda, c'est que, contrairement aux deux autres grands foyers dans lesquels il y avait des réfugiés urbains notamment, en Ouganda, il n'y avait pratiquement pas de réfugiés urbains. Et la plupart des réfugiés sont venus par vagues, et les premiers camps avaient été installés au bord de la frontière rwandaise, et quand il y avait de nouvelles vagues, on poussait ces réfugiés-là à aller encore plus loin, Et les gens qui ont connu les expériences les plus difficiles sont ces gens-là qui ont été déplacés quelquefois trois ou quatre fois, ce qui fait que 7 ou 8 ans après l'arrivée en Ouganda, certains n'ont pu s'installer qu'après 7 ou 8 ans. Et beaucoup de ces réfugiés-là, par exemple, vivaient jusqu'à la fin des années 80 et au début des années 90 dans une misère noire. Par exemple, pour ne pas le nommer, le président de la République rwandaise, dans une interview, donc c'est pas une conversation privée, a dit que sa famille a vécu dans une hutte avec de la toile de chaume. Au niveau des standards de vie, c'est le plus bas qu'on puisse trouver dans la région. C'est vraiment la misère la plus noire. Et ce groupe-là était assez homogène parce que c'était un groupe qui vivait d'abord dans cette misère noire-là aussi, et qui était resté bloqué dans les camps. Ailleurs, c'est un peu différent. Au Burundi, les gens dans les camps se sont développés assez rapidement. Et surtout, ils avaient une grande métropole qui était Bujumbura, dans laquelle il y a pu avoir un peu des va-et-vient, d'une part. Et au Congo, les choses étaient plus différentes parce qu'il y avait d'autres opportunités que les gens ont pu avoir. Et ce qui fait que, notamment au Burundi, mais surtout au Congo, il y a eu certaines réussites spectaculaires. Notamment au Congo, au niveau financier, il y a eu des grands hommes d'affaires, il y a eu le chef de cabinet du président Mobutu pendant très longtemps, qui était un réfugié de provenance de Kyangugu. Donc au Congo, il y avait une espèce de petite classe moyenne, relativement visible, relativement aisée, d'une part, et au Burundi, il y avait une petite classe moyenne, très petite et beaucoup moins aisée, par exemple, qu'au Congo, mais cette petite classe moyenne existait. Et la plupart des études, ou alors des perceptions que les gens avaient des réfugiés, se sont plutôt attachées à ces réussites-là. Donc les gens avaient l'impression que c'était des gens qui étaient bien, des grands féodaux, qui avaient quitté le Rwanda, qui s'étaient arrangés pour s'intégrer dans les pays voisins et mener une vie relativement bien. Et par exemple, l'étude même de Guichawa insiste sur les dimensions, les cas de réussite et passe sous silence complètement les grandes misères et les grandes détresses qui existaient chez la majorité. Réfugiés 113, eux sont très différents. Ils sont jeunes, la plupart viennent soit de la fin du cycle secondaire, d'école secondaire, soit de l'université, soit ont été des jeunes fonctionnaires au Rwanda. Et ils viennent, ils ont un capital culturel assez important. Certains sont extrêmement brillants, notamment ceux qui sont à l'université de Butare, parce qu'ils ont été à l'université à travers un processus de sélection extrêmement serré. Le régime Kayibanda prenait environ 10% des Tutsis et leur permettait d'aller à l'université. Mais c'était 10% des meilleurs. Alors que Habyarimana va faire la même chose, mais lui, il prenait les pires. Donc, ce qui faisait que sur les collines, par exemple, un enfant extrêmement brillant était sûr de ne pas aller à l'école secondaire ou alors à l'université parce qu'il était brillant, à cause du système de quotas. Mais Kayibanda ne faisait pas ça, donc il avait mis les plus brillants, et certains étaient extrêmement brillants et ont un peu essaimé dans le monde. Un certain nombre sont devenus des médecins, notamment il y avait un grand groupe à Dakar. Certains ont travaillé dans les organisations internationales, des choses comme cela. Certains sont venus en France. Voilà. Voilà. Et on s'est beaucoup focalisé sur ces gens-là et pas voir les autres conditions. Politiquement, l'évolution de ces réfugiés-là a connu un certain nombre d'étapes importantes. Je ne vais pas rentrer dans les cas de chaque pays, ce qu'il faudrait que je fasse, sinon ce serait un peu trop long. Je vais donner les points saillants. La première chose qu'une partie de ces réfugiés ont fait, une fois qu'ils ont quitté le pays, ça a été d'organiser une résistance et une lutte armée pour revenir dans le pays. Ce qu'on appelle les attaques des Inyanzi. Des Inyanzi voulaient rentrer dans le pays, et les Inyanzi et les groupes politiques qui les soutenaient étaient divisés entre ceux qui étaient plutôt monarchisants et ceux qui étaient plutôt républicains. Et au niveau des Inyanzi, par exemple, très rapidement, une grosse partie d'entre eux sont devenus républicains, et pas seulement républicains, mais aussi tiers-mondistes et panafricanistes. Et chez Guevara, par exemple, on a rencontré certains, notamment un grand commandant des Inyanzi, Muda Andi, au Congo, et a pu interagir avec eux. Les Inyanzi ont fait des attaques, certaines qui ont été très mal organisées, notamment celle de 1963 dans le Bugesera, qui a été un fiasco. Et ce fiasco-là a coûté extrêmement cher parce qu'il y a eu des répressions très fortes contre la population de Bugesera, mais pas seulement, mais ça a été aussi un prétexte que Kayibanda a pris pour tuer massivement les Tutsis dans Gikongoro. Et après cet échec-là, la cause du retour et du retour armé a été profondément disqualifiée au niveau des communautés réfugiées. Et après cet échec-là, les gens ont plutôt mis leurs énergies pour s'intégrer et survivre individuellement ou familialement. Voilà. Mais même après cela, il y a quand même des petits groupes qui ont continué à survivre, mais c'était des groupes qui, c'était pas exactement le même groupe que les Inyanzi, c'était d'autres groupes plus jeunes, de gens plus jeunes. Et de façon assez générale, partout il y avait des communautés rwandaises ou alors des groupes de Rwandais réfugiés à l'époque, beaucoup de ces groupes-là se sont investis dans la lutte à l'époque un peu anti-tiers-mondiste, panafricaniste et anticoloniale, même si la colonisation était terminée à ce moment-là, mais avec forte coloration anticoloniale. Avec des groupes notamment à Moscou, des groupes notamment en Belgique, bien qu'en Belgique c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait une réminiscence un petit peu des milieux culturels traditionnels qui étaient forts là-bas, avec des groupes un peu partout en Afrique, mais aussi de façon très importante en Ouganda, mais je vais y revenir. Voilà. Un autre élément qu'il faudrait prendre en considération, là, ce dont je vous parle, c'est un petit peu les conditions de ces réfugiés avant 1980. Parce qu'en 1980, il va y avoir une évolution importante qui va accélérer les choses. Mais avant d'arriver aux années 80, je voudrais juste parler un petit peu des actions du gouvernement rwandais par rapport à ces réfugiés-là. Une fois, après les avoir expulsés, parce que certains ont été expulsés, notamment en 59 et en 60, 62, l'administration coloniale apportait des camions. Ils apportaient des camions au niveau des églises ou alors des bureaux communaux où les gens s'étaient réfugiés, faisaient rentrer des gens dans les camions et les envoyaient au Burundi, par exemple. Ensuite, ils ont fait ça plutôt pour le Bugesera. Après la voie burundaise n'était plus possible, ils ont envoyé plutôt les gens au Bugesera. Mais c'était envoyé par les camions. Ça veut dire qu'un certain nombre de réfugiés ont été réfugiés qui ne voulaient pas être réfugiés. Donc ils disaient, non, nous on est rwandais, on verra comment on va faire, mais on ne veut pas partir. On les a obligés à monter dans des camions. D'autres ont quitté le pays, bien sûr, pour sauver leur vie. Après ça, en 1966, régime Kayibanda sort une loi sur les biens laissés vacants par les réfugiés en disant que tous les biens laissés vacants par les réfugiés étaient confisqués par l'État. Ça veut dire que c'était pour casser un petit peu le lien entre les réfugiés et le pays, de faire en sorte qu'ils n'avaient plus d'endroit où aller et leur couper un peu leurs racines. Le régime Habyalimana, quand il va revenir en 113, va rééditer la même loi malgré son discours de réconciliation. Enfin, une étape importante aussi sont les discussions qu'il y a eu en 1974 avec les réfugiés, entre le gouvernement rwandais et les réfugiés d'Ouganda. Au moment de l'avènement du régime Habyalimana, Idi Amin, qui était président en Ouganda, a dit « Ok, vous voulez faire la réconciliation, très bien, mais j'ai quelques centaines de milliers de vos gens ici, il faudrait que vous discutiez pour voir comment est-ce que vous allez régler votre problème. » Donc il a mis la pression sur le gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais a fait des discussions avec eux. Et finalement, pour être court, les réfugiés ont fait un mémorandum en disant « Nous, on veut rentrer, on ne demande qu'à rentrer, à une seule condition, que vous nous réhabilitiez, qu'on ne soit pas considéré comme ennemi du Rwanda. » Simplement ça, on ne veut pas des postes, on veut rien du tout. Très bien. Et le gouvernement rwandais a refusé. Mais ils ont vraiment essayé. Ensuite, il y a un autre élément qu'il faut aussi dire, c'est que tout le temps, depuis toujours, il y a toujours des pressions de retour. Ça veut dire des gens qui essaient de rentrer au Rwanda. Et il y avait toute une panoplie comme ça, répressive pour faire en sorte que les gens ne rentrent pas, même ceux qui vont rentrer de façon individuelle. Il fallait passer. D'abord, souvent, on se faisait arrêter quand on était un homme. Ensuite, on était fiché. Il fallait se présenter à la commune chaque mois. Il fallait une autorisation pour aller d'une commune à une autre. Donc, on était un peu un prisonnier dans son propre pays. Mais simplement pour dire qu'il y a toujours une pression du retour de la part des réfugiés qui ont toujours considéré que leur vocation naturelle était de rentrer au pays. Rapidement, les années 80. Les années 80 sont d'abord une année de crise économique profonde en Afrique, de façon généralisée, avec les politiques d'ajustement répondant aussi à des crises économiques internes. Et avec ces crises économiques-là, les petits arrangements auxquels étaient arrivés les réfugiés un peu anciens, les aînés, ont commencé à être remis en cause. Il y a eu une montée de la xénophobie dans l'ensemble de la région, et notamment une chose est devenue de plus en plus impossible, qui était extrêmement importante pour les réfugiés de Saint-Grand-Neuf, ça a été la possibilité d'étudier. Parce qu'ils disaient, on n'a pas de terre, on n'a pas de pays, mais au moins qu'on puisse étudier pour arriver à nous construire. Et dans les trois pays pays d'accueil des réfugiés, le droit à l'éducation est devenu pratiquement impossible. Et il y a une seconde génération de réfugiés qui a grandi, ceux qui sont nés à l'extérieur ou alors qui ont grandi à l'extérieur, qui n'avaient plus de perspective d'avenir, que ce soit individuel ou collectif. Ensuite, il y a eu un certain nombre de crises sécuritaires qui sont posées, notamment celle de 83-82 en Ouganda, où des dizaines de milliers de réfugiés, des camps de réfugiés, ont été expulsés vers l'Ouganda, qui ont été battus, violés, dont les biens ont été brûlés. Donc il y a eu des pogroms. Une partie d'entre eux sont rentrés au Rwanda parce qu'ils n'avaient pas le choix. On les a parqués dans le parc de la Kagera. Certains sont morts de faim. Et ce n'est qu'assez tardivement qu'on est venu les secourir. Une autre partie est restée dans un no man's land entre l'Ouganda et le Rwanda. Et ils sont restés quelques mois. Les vieux se suicidaient comme... il y avait une épidémie de suicide. Mais maintenant, le but recherché par Obote, qui voulait... comme ça, réprimer les Rwandais parce qu'ils les accusaient de soutenir la rébellion que Museveni venait d'ouvrir l'année d'avant, a eu l'effet inverse. Ça veut dire que ça a poussé les jeunes, au contraire, d'aller dans la rébellion. Au Burundi, il y a eu Bagaza qui était au pouvoir, qui a donné un tournant nationaliste à son gouvernement, et les petits fonctionnaires rwandais commençaient à être renvoyés, et les possibilités de faire du business, tout ça commençait à se raréfier. Au Congo, il y a eu la crise de la nationalité douteuse de juin 1981. Voilà. Alors, pour les observateurs de la scène rwandaise, mais aussi pour les jeunes rwandais un petit peu conscientisés, je dirais, le retour, alors que les gens n'en parlaient pas beaucoup, depuis la fin des Ignazi, le retour devenait inéluctable. Ça veut dire qu'il n'y a eu plus d'autre solution. Il fallait retourner au Rwanda et coûte que coûte. Maintenant, il y a un autre élément dont je voudrais parler, qui est peut-être le plus important, je vais demander un peu plus de 2 minutes, c'est la dimension culturelle. Dimension culturelle, il y a eu un réveil culturel de la jeunesse rwandaise un peu partout dans le monde, un peu de façon presque simultanée, que ce soit en Belgique, que ce soit au Burundi, que ce soit un peu moins au Zaïre, mais un peu plus par exemple au Kenya, un retour culturel avec des chanteurs qui sont à Paris, de nouveaux chanteurs, des troupes de danse et tout cela. Et ces troupes culturelles-là correspondaient bien sûr à une réponse par rapport à l'angoisse existentielle de ces jeunes-là, mais aussi à une quête d'identité approfondie. Et ces chansons-là, souvent, parlaient du Rwanda ancien, de sa grandeur et tout cela, des valeurs traditionnelles, tout et tout. Mais maintenant, par rapport à ça, je voudrais juste peut-être rapidement expliquer que la dimension culturelle a été extrêmement importante. Aujourd'hui, par exemple, les commentateurs sociaux, qui ne sont pas des chercheurs, mais qui, quand ils réfléchissent un petit peu pour savoir d'où est venue l'impulsion des réfugiés rwandais pour revenir au Rwanda au prix qu'il a été, mettent en avant la question de la culture. Et pas seulement par rapport au retour, mais aussi par rapport à certaines choses qui sont faites plus tard, même après le génocide. Je vais très rapidement lire un extrait d'un article très court de Emmanuel Nezimana. Emmanuel Nezimana était un brillant historien. Pour faire court, il était Hutu et il enseignait à l'Université nationale du Rwanda. Et en octobre 86, il donne une leçon inaugurale intitulée « Histoire, culture et conscience nationale ». Là, on parle bien en plein régime Habyalimana, à l'apogée du régime Habyalimana. Et il dit dans sa quelque part, pour Urwanda, une vue simpliste des sources officielles et des comportements extérieurs ou affichés laisserait rigidement et non moins rigoureusement conclure à une histoire, à une culture cyclique et mécanique, prédestinée et surnaturelle, fondement d'un nationalisme fanatique et d'un patriotisme quasi fatal. En fait, dans son allocution, il explique qu'au Rwanda, selon un Rwanda ancien, donc un peu les fondements culturels du Rwanda ancien, la culture et conscience historique sont productrices d'histoire, c'est-à-dire d'événements politiques et militaires. Cette culture et cette conscience historique ne s'embrassent pas de vérité objective, l'amalgame fait réel, légende et mythe pour produire une représentation hyperbolique du Rwanda qui détermine les actions politiques et militaires. Mais qui, à leur tour, aspirent à atteindre le niveau d'élévation de leur objet premier d'inspiration. Donc il y a une espèce de tension vers le haut, d'une culture qui se donne à une image d'elle-même, et cette culture qui se donne une image d'elle-même pousse les gens à agir dans le sens d'atteindre le niveau de cette culture-là. Et ça, il a dit ça en 86, mais... moi j'étais un témoin assez près des événements. Il s'agissait vraiment de cela. Maintenant, très rapidement, expliquer peut-être un petit peu l'importance de cette soif de retour au pays, non seulement du retour au pays, mais aussi d'un pays idéalisé, mais un pays idéalisé dans lequel les gens sont prêts à faire des efforts pour arriver à atteindre cet idéal-là. Et peut-être juste un petit mot entre la différence entre FPR et, pas la différence, mais les différences dynamiques entre FPR et la communauté en tant que telle. Le FPR a été créé en 87. Il était centré surtout sur les réfugiés d'Ouganda ou des anciens réfugiés d'Ouganda et avait comme un appendice important, très rapidement, une armée. Donc une armée qui était constituée par des réfugiés rwandais qui étaient enrôlés dans l'armée d'Ouganda. Et entre 87 et 90, je dirais que le FPR, à ce moment-là, était plutôt centré autour de ces gens-là et de ce canevas-là, qui était très ougandan-centré. Et le FPR rentre au pays, parce qu'il y a des gens qui disent envahi, mais non, on ne parle pas d'envahissement, on n'envahit pas son propre pays. Donc le FPR rentre par les armes et se fait défaire complètement. C'est la défaite totale. à savoir que le premier canevas du FPR ougando-centré et centré sur certaines élites et des militaires était par terre. Et le FPR, à ce moment-là, fait appel à la communauté et la communauté lui donne des réponses extraordinaires. Ça veut dire que les gens se mobilisent, que ce soit... je ne vais même pas donner des exemples, c'est dans le monde entier. Et se mobilisent de façon radicale. Et pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. Par exemple, dans certaines communautés, les enfants partaient à l'insu de leurs parents. Quelles que soient les conditions sociales, des familles de grands commerçants comme des paysans. Donc il y a une portée, ce qui fait qu'à partir de 90, à la fin de 90, après la défaite du FPR, le FPR a été porté par la communauté. C'était juste pour donner un petit peu une image de l'impulsion de cette communauté-là, d'une part, et d'autre part aussi, peut-être pour résumer deux choses, à savoir... Oui, à savoir que quand on regarde un petit peu l'histoire de la communauté des réfugiés de 59, on se rend compte que les choses qui sont passées au Rwanda ne sont pas passées nécessairement par hasard ou seulement par accident, qu'il y avait une véritable quête derrière cela, une quête qui était soutenue par des aspirations populaires. Deuxième conclusion que je pourrais tirer, c'est que alors qu'on ne parle pas beaucoup de ces réfugiés-là, eux, sont toujours considérés comme partie intégrale de la communauté rwandaise. Il s'agit d'une partie du Rwanda qui évoluait à l'extérieur du Rwanda plutôt que des gens qui n'étaient pas au Rwanda, à cause de leur attachement au Rwanda et au prix qu'ils étaient payés, au prix qu'ils étaient prêts à payer. Voilà. Merci.